s'attendre continuellement et être toujours prêt. Donc, donnez une attention constante à la prière. Dans votre vie, ici, c'est un ordre que Paul nous dit, c'est donner une attention constante à la prière. Attendez-vous toujours à la prière. Comptez toujours sur la prière. Être toujours prêt. Soyez toujours prêt pour prier. Ça, c'est ce qui nous est demandé dans ce verset-là. Et comme vous pouvez voir, juste ce sujet-là prend entièrement un message. Donc, cet avertissement de Paul, après avoir parlé sur les relations, c'est parce que c'est facile d'être éloigné de la prière et de minimiser son pouvoir et son effet. Le malin, Satan, va amener le croyant à minimiser l'impact de Dieu, à banaliser ça et à réduire ça à une des pratiques chrétiennes de faire quelque chose. Alors, ce n'est pas de faire quelque chose, c'est de demander quelque chose. La prière est essentiellement demander des choses à Dieu. Ce n'est pas juste passer du temps avec Jésus, être rempli de la présence de Dieu. C'est la prière, et d'abord et avant tout, que oui, je vais dans la présence de Dieu, mais c'est pour lui demander des choses. C'est pour demander des choses précises à Dieu. C'est des pétitions qu'on pourrait dire. Donc, c'est facile pour les chrétiens de minimiser le pouvoir de la prière et son effet des exaucements à ces prières-là. Une autre des tactiques de notre adversaire, c'est de nous distraire par des choses visibles. On prie à un Dieu invisible pour avoir quelque chose de tangible. Donc, distrait par des choses visibles, et c'est une relation avec quelqu'un d'invisible. Tu sais, avec mes enfants, ma femme, mon employeur, c'est toutes des relations qui sont tangibles, qui sont visibles, mais là, je prie, je ferme la porte, puis je parle tout seul. En tout cas, quand on met une caméra sur moi, c'est le seul qu'on voit. On parle à un personnage qui est invisible, mais qui est réel. Et donc, être distrait par les choses visibles, les choses qu'on a à faire, les distractions de notre vie. Et je pense que vraiment, on est dans l'histoire de l'homme, avec ces bébelles-là. On est toujours en train d'être connecté avec des gens tangibles, quelqu'un qui nous renvoie un texto. J'évangélisais quelqu'un dernièrement, il dit, j'y ai écrit. Ben, j'y ai pas écrit, mais qui m'appelle, qui me fasse un texto. T'sais. Et lui, il disait dans le fond que, tant qu'il n'y aura pas d'évidence que Dieu lui répond, bien, j'ai dit, je suis en chair et en os, touche-moi si tu veux. Je suis là avec toi, on est au restaurant, puis je suis en train de te parler de Dieu. Tu ne peux pas avoir plus tangible que ça, tu veux avoir quoi d'autre comme réponse? Mais on est distrait par les choses visibles. On est en relation avec un Dieu invisible, puis on minimise le pouvoir de l'effet de la prière. Comme je disais tantôt, la prière, c'est essentiellement demander des choses à Dieu. Je ne sais pas si je lis le verset dans 1 Timothée 2.1. Il dit « J'exhorte donc avant toute chose. » Donc, tantôt, c'était les relations mari, femme, enfant, parent, tout ça. Là, il vient de finir de parler de toutes ces relations-là, puis il dit « Ah oui, persévérer dans la prière. » Mais ce n'est pas parce que c'est dit après que ce n'est pas la première des choses. Paul le dit dans Timothée. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose et avant de dire ce que je veux de monsieur, ce que je veux des madames, ce que je veux des personnes âgées, avant que Paul parle de ses exhortations dans 1 Timothée, il dit, avant toute chose, faites des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose, c'est sa première exhortation. Avant toute chose, on devrait prier. Puis demander au Seigneur qui puisse nous aider dans ces choses-là. Et l'idée centrale, c'est que même si on passe du temps avec Dieu, l'idée centrale de prier, c'est de demander des choses à Dieu. Donc, de donner une attention constante au fait de demander des choses. On va aller au prochain. Ouais. Donner une attention constante à demander des choses, s'attendre continuellement sur le fait de demander des choses, être toujours prêt à demander des choses, et ça demande un effort constant jusqu'à ce qu'on commence à avoir des réponses. Donc, le mot persévérer, c'est continue de donner une attention à demander des choses. Attends-toi continuellement à être en train de demander des choses. Sois toujours prêt à demander des choses. C'est comme si on devrait se surveiller, à être sûr qu'on reste dans un mode d'être en train de demander des choses à Dieu. Hein? Et Jésus va dire à ses disciples, « Vous n'avez rien demandé, demandez afin que votre joie soit parfaite. » Dieu veut un peuple joyeux et un peuple qui va persévérer à demander des choses jusqu'à temps qu'il commence à avoir des réponses et que là, sa joie va augmenter. Puis là, à un moment donné, ça ne sera plus de l'eau à sortir d'un rocher que de prier. Pourquoi? Parce que la personne va avoir vu les récompenses. Mais avant de voir les récompenses, c'est comme la perte de poids, ça. C'est comme l'entraînement quand tu fais du sport. Tant que tu n'as pas vu les bénéfices, tu es encore juste dans le prix à payer. Ça, c'est comme l'offrande. Tant que tu n'as pas essayé de donner pour voir comment Dieu bénirait en retour, tu demeures dans une genre de « ça me coûte quelque chose ». Mais à partir du moment où tu commences à bien manger, tu dors mieux, puis là, tu commences à avoir les bénéfices du prix que tu as commencé à payer, bien, la persévérance devient de plus en plus facile. Mais au départ, quelqu'un qui ne prie pas régulièrement pour demander des choses n'en voit pas non plus les accomplissements et elle trouve que la prière, c'est juste une activité religieuse qu'un chrétien doit faire, comme se présenter à l'église, donner son argent, donner de l'argent, etc. OK, donc, tant qu'on ne verra pas des réponses pratiques à nos prières, on va continuer à penser que la prière, c'est une affaire que quand que je vais être sur mon lit de mort, puis que là, j'aurai plus de travail, puis que je vais être retraité. Bien, pas lit de mort puis retraité. En passant, si vous êtes retraité, vous n'êtes pas sur votre lit de mort. Donc, ça demande un effort constant de continuer à te surveiller pour être sûr que tu es toujours en train de formuler des demandes à Dieu pour des choses concrètes. Entre les réponses et leur accomplissement, on est laissé à nous-mêmes. On pense que le ciel, souvent, il est d'airain. On a-tu fait du mal? Il n'y a rien qui arrive. Là, pourtant, je le demande. On dirait que Dieu n'entend pas. Et pourtant, Dieu entend et Dieu répond en son temps et à sa manière. La persévérance, c'est le contraire d'abandonner. C'est n'abandonne pas de faire toutes ces choses-là, de donner une attention continuelle. Je vous parle d'une femme qui s'appelle, je ne sais pas comment ça va aller pour prononcer son nom, c'est Debbie, il n'y a pas, Przbylski. Okay? Non, c'est elle. OK, elle est en charge d'un ministère qui s'appelle Arise, ou plutôt Intercesseur Arise International, donc Élève des intercesseurs internationaux, c'est le nom de l'organisation. Puis elle a écrit un article que j'ai beaucoup aimé, c'est Standing Firm in Persistent Prayer, se tenir ferme dans une prière persistante. Et elle commence son article en parlant de Jésus qui donne une parabole dans Luc 18, versets 1 à 5. Et c'est écrit comme ceci dans le verset 1. Jésus enseignait qu'il fallait toujours prier et jamais se relâcher. Jésus enseignait qu'il fallait toujours prier, jamais se relâcher. Et l'exemple qu'il donne, c'est celle de la veuve qui avait été brimée dans ses droits puis qui allait toujours voir le juge jusqu'à temps qu'il lui fasse justice. Et Jésus donne cette parabole-là pour dire il faut toujours prier, puis il ne faut jamais se relâcher. Et elle dit que plusieurs servent Dieu quand c'est excitant. Prochain clic. Plusieurs servent Dieu quand c'est excitant. Et là, elle va raconter son histoire qu'elle est travaillée dans un bateau où on allait dans les pays un peu partout dans le monde. Et puis, il évangélisait, il allait de ville en ville, il accostait, puis elle disait, de pays en pays, c'était super. Elle dit, les trois premiers mois étaient glorieux, le bateau était vieux, il était rempli de croquerelles, mais elle avait des opportunités de servir, et elle trouvait ça incroyable. Elle servait le Seigneur dans ce bateau-là avec 40 nations différentes, des gens de toutes sortes de langues et de nations. Et elle donnait son témoignage dans une église différente à chaque rassemblement. Elle mangeait des fruits exotiques dans des pays qu'elle ne savait même pas qu'ils existaient avant, les fruits puis les pays. Éventuellement, elle dit, l'attrait du nouveau a perdu son éclat. Elle a commencé à s'ennuyer de chez elle. Hein? Les colocataires de chambre devenaient irritants. Voyager sur la mer devenait moins enchantant et les maux de mer étaient un défi continuel. Plusieurs d'entre eux regrettaient de s'être engagés pour une période de 2 ans. Trois premiers mois, ça allait, mais à un moment donné, tu commences à t'ennuyer de ta maman et de ton chez-toi. Mais elle dit que c'était un bon entraînement pour des jeunes dans la réalité, parce que la persistance est une réalité. Et les jeunes qui sortaient de ce camp d'entraînement-là, qui durait 2 ans, étaient des gens qui étaient beaucoup plus persévérants. Et donc, entre la prière et son exaucement, il y a l'attente. Et durant cette attente-là, Dieu travaille chez nous à nous rendre persistants, à continuer à demander. Il pourrait nous le donner tout de suite, mais il nous le donne plus tard. Puis il travaille en nous à nous façonner, à faire de nous des gens plus persévérant. Et la vie n'est pas seulement excitante. Entre les réponses, entre la prière et la réponse, il y a la persévérance. Et plus ce qui est demandé est gros, plus la persistance devra être démontrée. Donc, quand tu demandes de quoi de gros, ça se pourrait que Dieu te réponde en étapes ou en partie dans un processus de quelque chose qui va être beaucoup plus grand, qui va être au-delà même de ce que tu as demandé et de ce que tu as imaginé. On voit ça dans Hébreux, chapitre, tu peux aller à la prochaine acétate. Hébreux, chapitre 6, versets 11 à 12. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Qui sont ceux qui héritent des promesses? Ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est ceux qui ont la foi et qui sont persévérants, qui finissent par avoir ce qu'ils ont demandé. Si tu te persévères à demander des choses au Seigneur, puis tu ne te relâches pas, tu vas obtenir les promesses, hein, et tu vas garder une pleine espérance. L'auteur, dans son article, elle parle d'Abraham, puis elle dit que Dieu lui donnerait une postérité. Il a persévéré. À 99 ans, je pense, il a obtenu la promesse qu'il y aurait un fils dans ses vieux jours. Et Dieu, lui, avait promis une multitude de fils et de filles. Il avait promis que s'il regardait les étoiles dans le ciel, comme il n'était pas capable de compter les étoiles, il ne serait pas capable de compter le nombre de ses fils. Mais ça n'a pas été dans sa vie. Ça a été bien plus tard. Il y a eu pas mal de monde durant le temps qu'il était vivant, mais Dieu lui a promis une multitude, mais il lui a donné un fils. Puis si Dieu promet quelque chose de grand à nous, bien, il va peut-être répondre par des particules de cette grandeur-là. OK? Mais il va faire quelque chose de plus grand, au-delà de ce qu'on pense et de ce qu'on imagine avec ce qu'on a demandé. OK? Fait que on va attendre souvent que Dieu nous donne, par exemple, une grosse église. Dieu dit, je te donne un âme. Ah, c'est enfin une grosse église pour toi. Dieu dit, je te donne un âme. Tu sais, les mercredis soirs, à un moment donné, en 2009, je pense, on était 60 le mercredi, j'avais le goût de faire une dépression. Parce qu'on s'en venait plus dans le coin du 80-90, tu sais, fait que j'appelais Pasteur Paul, je dis, Pasteur Paul, t'as juste 60 à soir. Puis il dit, oh, mon frère, courage, lâche pas. Tu sais. Puis, dans mon cœur, l'énoncé de vision, nous, c'était élever Dieu et le servir avec joie dans notre génération. Puis on a décidé, les anciens, dans ce temps-là, de dire élever Dieu et le servir avec joie, une personne à la fois. Tu veux avoir quelque chose de gros? Tu veux une grosse église? Dieu dit, je te donne un âme que tu peux prendre, évangéliser, faire un disciple, puis aller plus loin. Bien, c'est vrai dans beaucoup de choses. On atteint une forêt, mais Dieu nous donne une semence. Puis il dit, mets-la en terre. Et donc, ce n'est pas parce qu'il répond par des petits commencements qu'il ne fera pas quelque chose de grand avec chacun d'entre nous et avec chacune de nos prières. Mais là, il va falloir que tu l'arroses, cette semence-là, par ta persévérance, à continuer à demander à Dieu, là, à cette heure que tu as eu ton fils qui s'appelle Isaac, prie pour Isaac pour qu'il trouve la bonne femme. La bonne femme, hein? Je veux pas. La bonne épouse, tiens, je vais le dire comme ça, ça se dit mieux. Donc, Abraham, il ne peut pas avoir une nation d'une shot. Fait qu'il y a un Isaac, mais il peut prier pour la femme. Après ça, il peut prier pour ses petits-enfants. Et il peut voir tranquillement, il peut voir l'accomplissement de la promesse. Et je pense que si on comprend ce principe-là, que quand Dieu veut nous donner une forêt, il commence par nous donner une semence, on ne se laissera pas cacher par la grandeur de la forêt qu'on recherche, tu sais. Une fois, j'étais parti dans une conférence, puis j'attendais que Dieu me parle sur un point bien, bien, bien précis, mais la réponse, et je l'ai compris à un moment donné, j'étais frustré parce que je n'avais pas ma réponse, puis j'avais payé 3 800 $ pour être là-bas, c'est en Europe. Puis j'étais allé voir le pasteur, puis je dis, je demande une chose bien précise, le reste, c'est pas grave, je veux avoir juste cette réponse-là. Mais il dit, tu cherches, il dit, trouve Jésus, OK, puis trouve Jésus-Christ, puis avec lui, tu vas avoir toute chose. Fait que cherche Christ. Puis là, il y avait un autre message. Tu sais, on veut une forêt, mais Dieu nous donne une semence. Puis là, ça m'avait fait une impression sur mon cœur. Puis je dis, bon, mais regarde, Seigneur, moi, je vais ouvrir ma main, je vais prendre ce que tu me mets dans ma main, je vais le semer, puis on va voir à partir de là. Et donc, on vit dans une société où attendre n'est pas considéré comme une vertu. toute invention dans le monde est faite autour de comment on pourrait faire pour sauver du temps à ces pauvres créatures qui, il y a beaucoup de choses qui leur est demandé. Même moi, je programme, puis mon but, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on pourrait faire pour que, je ne sais pas, mon employé rentre ses heures, son chèque de petit tac, 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 ça se dépose dans le compte direct. Toute invention est faite autour d'un désir de ne pas attendre, de rendre la vie plus facile. Pourquoi attendre d'être arrivé si je peux faire une commande vocale à mon cellulaire pour envoyer un texto automatique? Avez-vous dit « manger du pain »? Non, j'ai dit « appeler mon parrain ». Avez-vous dit « manger du pain » ? Non, j'ai dit « appeler mon parrain ». Ah, en tout cas, des fois, mon téléphone intelligent, il ne répond pas à bonne affaire. On va à l'épicerie, on achète de la salade, elle est déjà coupée en morceaux. Les aliments, la pomme est déjà dans un petit compartiment en plastique. Puis là, tu as la sauce aussi que tu fais juste ouvrir, mon ami. Tout est nettoyé, tout est prêt. Je veux dire, c'est super. Mais il y a deux générations, il fallait attendre que ça pousse. Hein? On ne pouvait cueillir que ce qu'on mangeait, parce que pendant que ça restait encore sur le plan, ça restait frais. Hein? Mais maintenant, ce qu'on voit, dans les épiceries, il y a des gens qui ont attendu que ça pousse, puis ils savent que nous, on veut que ça pousse vite, puis on ne veut pas payer cher, fait qu'ils ont mis des engrais, de toutes sortes d'affaires pour que ça pousse plus vite, parce qu'il y a toujours le prix qui est payé, puis qu'on ne veut pas attendre. Hein? Donc, on a de la difficulté à attendre. Le cultivateur a de la difficulté à attendre aussi, parce que nous, on ne veut pas attendre, et on veut être compétitif. Mais ça se transpose aussi dans la prière. Donc, l'attente n'est pas vue comme une vertu dans notre monde. Il faut se faire violence contre-culturellement pour dire « Dieu travaille dans le temps, et puis Dieu, il va prendre le temps que j'attends aussi. » Et moi, je dois être dans une position de continuer à persévérer, à attendre et à demander encore. On veut un exaucement rapide. Prochaine acétate. Hein? On veut que ça aille vite. Et Dieu, lui, nous donne du temps pour grandir dans notre prochaine acétate, dans notre persévérance. Donc, ce pauvre petit poussin, il a attendu son jour. Hein? Il nous donne le temps de grandir dans notre persévérance, puis éventuellement vient l'exaucement. Donc, Dieu, lui, nous donne une semence, et on doit attendre et persévérer dans la prière pour éventuellement obtenir la forêt qu'il y a dans cette semence-là. Donc, lui, quand Dieu voit la semence, il voit déjà une forêt dedans ça. Eh bien, c'est comme ça qu'on devrait approcher la prière et la persévérance à la prière. Dans Romains, prochaine acétate, Romains chapitre 12, versets 11 à 12. Je vais fermer la manette, je vais te laisser contrôler. Vas-y. Non, c'est avant ça. Ouais. Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Donc, tu vois, il nous parle d'être fervents d'esprit, puis une des manières de servir Dieu avec notre esprit, c'est comment? C'est de persévérer dans la prière. Il y a la patience quand ça ne va pas, il y a cette idée de se réjouir que ça va aller mieux. Alors, on est dans l'affliction, on se réjouit de quelque chose qui va nous être donné. Mais il y a certainement de persévérer dans la prière. Servir Dieu dans notre esprit humain, c'est d'être persévérant dans la prière. Par paresse, une personne va se relâcher. Par paresse, elle n'obtiendra pas ce qu'elle a demandé parce que par paresse, elle ne veut pas persévérer, elle continue à demander jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la récompense. Et par paresse mentale, spirituelle, elle va cesser, elle va se relâcher. Être fervent d'esprit, et servir Dieu dans notre esprit, Paul le savait, il comprenait ça parce que dans Romains, le même livre, au chapitre 1, verset 9, il dit « Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. » Sans cesse mention de vous. Dieu que je sers dans mon esprit, ok, que je sers dans l'évangile de son Fils, m'est témoin, je fais sans cesse mention de vous. Il prie sans cesse. Il demande continuellement dans ses prières, d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Donc, même pour aller voir les Romains, Paul disait, « Je sers Dieu en mon esprit, et Dieu m'est témoin, je suis toujours en train de lui demander de pouvoir venir vous voir, de pouvoir venir vous édifier. » Puis là, il va dire pour leur donner ce qu'ils ont besoin pour leur marche chrétienne. Donc, servir Dieu dans notre esprit, ça commence pas par faire des choses pour le Seigneur, ça commence par le prier continuellement, puis lui demander. Je vais vous poser une question, dans le fond. Mais juste avant, non, c'est pas tout de suite. Mais déjà, préparez pourquoi est-ce que nos prières devraient être accompagnées d'actions de grâce? Pensez-y. Mais en attendant, on va continuer avec prochain acétate. Dans le verset, il dit « persévérez dans la prière ». Puis après ça, il dit « veillez-y avec action de grâce ». Le mot pour « veillez-y », c'est « veiller jusqu'à, tu peux le faire apparaître », c'est de donner une attention stricte prochaine à cet âge. Donner une attention stricte prochain. Veillez de peur qu'à cause d'une supervision négligente, quelque chose de grave ne vous arrive. Hey, c'est grave ça! Il est en train de dire, si tu ne surveilles pas attentivement le fait que tu es en train de prier, tu pourrais éventuellement arriver à un endroit où, vu que tu as manqué de vigilance, quelque chose de grave pourrait t'arriver prochain à cet âge. Donc, un monsieur ici qui dit salut à son chum, il enlève son casque de construction. Donc, pendant que tu n'es pas en train de prier, que tu n'as pas couvert ta vie de prière, il pourrait t'arriver quelque chose de grave. Okay? Il y a l'idée de mettre une protection sur notre vie. La prière met une protection sur notre vie, de peur que si tu te relâches ta pratique de prier, que tu n'es pas en train de continuer à penser, à demander des choses au Seigneur qui est ta protection, il va survenir quelque chose de difficile sur toi ou encore quelque chose de grave. Un accident est bêtement arrivé. Tu es en train de couper du bois. Distraction. Toum! Un de perdu, neuf de retrouvé. Ça peut arriver vite. Une inattention, c'est ça que le mot veut dire. Veille, parce que tu ne sais pas, tu pourrais avoir une distraction, et ça pourrait être très dommageable pour ta vie. Okay? Un texto volant. Je voulais pas vous montrer des vidéos de traumatisants. Il y en a un là, sur Internet, c'est tellement drôle. C'est Saint-Anathase. Okay? Cherchez ça sur YouTube. Saint-Anathase, c'est une compagnie de pompes funèbres, finalement, qui dit de continuer à texter. Tu sais? Puis là, tu vois déjà. Mais c'est un peu humoristique. Là, mais un accident, c'est bêtement arrivé. Bien, un manque de vigilance, à cause d'un manque de vigilance dans la prière, quelque chose de bête, de vraiment bête, pourrait avoir des conséquences très importantes sur nos vies. Et c'est ce que le verset veut dire. Un conflit dans une relation, tu n'as pas prié, tu n'as pas rendu grâce pour l'autre, et boum, prochain acétate, il apparaît un conflit. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, le conflit qui embarque, après ça, tu penses-tu que tu t'en vas dans la prière pour résoudre ça? Non. Tu vas essayer de le démêler toi-même jusqu'à temps que là, ça mène à rien. Parce que comme tu n'as pas prié au départ, tu ne pries pas non plus pendant. Puis là, tu commences à essayer de tout réparer. Puis là, on dirait que ça se remplit. Plus que tu parles, plus que ça se remplit. Et il y a une réaction en chaîne qui se produit parce que puisque la prière ne fait pas partie des options au début, elle souvent n'en fait pas partie au plein milieu. Elle vient après. Puis après ça, bien, on essaie de réparer qu'est-ce qu'on a fait. Donc, la manière de surveiller qu'on ne manque pas de dépendre de la prière doit être faite avec action de grâce. Donc, me surveiller, voir si je suis en train de demander des choses au Seigneur, devrait se faire avec action de grâce. Et donc, le titre de mon message, prochain acétate, c'est « Surveille ta persévérance ». Et c'est écrit « Veillez que vous êtes en train de surveiller sur votre persévérance à prier avec action de grâce ». Et ma question pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait faire des actions de grâce en accompagnement de nos prières? On va faire des phrases courtes, puis moi, ben, je vais les répéter pour l'enregistrement. Donc, Adam et Ève, on regardait ce qui leur manquait plutôt que ce qu'ils avaient, et ça a créé la convoitise, et on ne serait pas où on est aujourd'hui. Donc, on devrait rendre grâce pour accepter des choses qu'on a dans nos vies. Pas que ce soit la convoitise qui nous dirige. D'autres choses. Pourquoi est-ce que l'action de grâce devrait accompagner nos prières? Parce que quand je prie que je n'ai pas encore la réponse. Donc déjà, mon action de grâce témoigne que j'ai la foi dans le Seigneur. Très bonne réponse. Pourquoi est-ce que nos prières devraient être accompagnées d'actions de grâce? Action de grâce, c'est quoi les actions de grâce? Des remerciements. Pourquoi est-ce que quand on prie, on devrait accompagner nos prières d'actions de grâce? parce que la Bible dit de rendre grâce en toutes choses. Pourquoi? Donc, de croire que quand on demande de quoi, on va l'avoir déjà obtenu. Donc, une confiance, ça montre notre foi. Donc, tu te reposes sur Dieu, tu sais qu'il va agir. Oui. Pour reconnaître que Dieu a donné son Fils à la croix pour nous. Et, gars, c'est écrit que surveillez votre persévérance et faites cette surveillance-là, faites-la avec action de grâce. Pourquoi est-ce que ça surveille notre persévérance dans la prière? Pourquoi est-ce que quand on fait des actions de grâce, ça va surveiller qu'on continue à prier? Ça fait naître l'espérance. Exprime-toi plus encore. Ce que Dieu a déjà répondu, oui. Donc, il l'a déjà fait dans le passé, je sais qu'il va encore répondre. Oui, ça surveille ta persévérance, ça t'encourage à persévérer parce que tu te rappelles qu'il a déjà répondu pour telle affaire. Excellent. D'autres choses? Excellent. Je vais répéter certaines affaires de ce qui ont été dit, et on va les regarder ensemble. Prochaine acétate, prochain clic. Parce que Dieu nous écoute. Remerciez le Seigneur qu'il nous écoute. Hein? Nous avons accès au Père par le sacrifice de Christ, au moyen du Saint-Esprit. Nous avons accès au Dieu de l'univers parce qu'il nous écoute. Dans Psaume 65, au verset 3, il dit, « Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Juste ça, juste de le remercier que Dieu est en train de nous écouter, que nous avons accès à la salle du trône, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Nous avons accès au Père à cause de Christ par le moyen du Saint-Esprit. Un autre. Reconnaître qui il est nous assure de prier selon son caractère. Dans Matthieu 6, au verset 9, quand Jésus nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Il dit, « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. » Ou que ton nom soit sanctifié, hein, dans le Notre Père. La première affaire, avant de demander des choses à Dieu, c'est de se mettre d'accord sur qui il est. Le remercier pour sa fidélité. Ta fidélité, hein, on a chanté ça aujourd'hui, est grande. Reconnaître qui il est m'aide à nourrir ma foi pour prier avec foi, pour prier avec confiance qu'il est fidèle, qu'il est grand, qu'il est tout-puissant. Donc, en le remerciant pour qui il est et ce qu'il a fait, ça élève mon âme. Et ça encourage mes prières parce qu'elles sont faites avec la foi de qui il est. Et donc, je suis reconnaissant pour qui il est et je respecte son nom. Et parce que je sais que dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance. Ça fait naître l'assurance que de connaître sa volonté, de rendre grâce pour qui il est. Parce qu'il dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ça, c'est un petit peu comme un enfant qui vient dire les qualités à son papa avant de demander de l'argent. Ça, c'est toujours mieux comme ça, tu sais, quand tu as de quoi demander. Comment ça qu'il est fin comme ça, lui, aujourd'hui, tu sais? Ah, il veut quelque chose. Mais ça plaît au Père qu'on soit reconnaissant pour ce qu'il nous a donné, OK? Et plus que quand on fait juste arriver avec des demandes, parce que ça l'élève, le Seigneur. Donc, on prie selon sa volonté, puis on sait que quand on prie selon sa volonté, ben il nous écoute. Fait que, amen. Une autre chose aussi, c'est que c'est contraire au subi et attend. Prochain clic. C'est contraire à subi puis attend. La prière, c'est pas juste dire, c'est comme ça, ça changera pas. Dieu a déjà tout décidé, tout est déjà figé, il n'y a rien qui peut changer. Fait que c'est de juste de subir puis d'attendre. La prière, ce n'est pas juste subir puis attendre, c'est vraiment dire, « Sais-tu quoi, Seigneur, je te remercie d'avance que ta manière d'agir, tu vas agir en ton temps et de ta manière, mais je ne suis pas figé dans le temps et je prie à un Dieu qui m'aime et qui aime interagir avec moi Et donc, la game n'est pas toute décidée d'avance, puis tu tiens le monde dans tes mains, puis tu réponds à nos prières, puis à cause de ça, il y a des choses qui vont pouvoir changer grâce à ça. Et c'est pour ça que je persévère dans la prière, parce que je pense qu'il va vraiment changer quelque chose. La femme avec le juge unique, là, si elle n'arrêtait pas de toujours intercéder, c'est parce qu'elle savait qu'à un moment donné, il changerait quelque chose, il ferait quelque chose. Mais nous, si on pense que tout est figé, qu'il n'y a rien qui peut être changé, on prie pour quoi? Peut-être c'est pour ça qu'on ne prie pas. Parce qu'on pense, on est fataliste dans notre idée. On pense que on a prié, ça n'a pas marché, ça n'a pas changé, que ça ne peut pas changer. On est fataliste souvent. Mais non, la prière, quelqu'un qui va prier, il est reconnaissant à un Dieu qui nous aime et qui aime changer des choses. Ça a été dit tantôt, prochain point. Remercier Dieu d'avance pour sa réponse de sa manière et en son temps. C'est qu'il va avoir des exaucements. Va donc au prochain, voir pour le fun. Ah, j'avais sauté celle-là. OK. Veillez aux exaucements pour l'honorer. Dans le psaume 86, je vais vous lire le psaume 86, écoutez bien ça. L'Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Pourquoi est-ce que David, le psalmiste, il dit « Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » À force de voir comment Dieu nous exauce, comme disait Mirella, ça fait naître chez nous l'espérance de prier encore. Hein? Donc, parce que je t'invoque au jour de la détresse, tu m'exauces, et il rentre comme ça dans la prière en le reconnaissant qu'il est un Dieu qui exauce. « Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Rien n'est semblable à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand. Tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. » Et là, ils viennent de faire des louanges, des actions de grâce au Seigneur. Puis là, après ça, ils continuent au verset 11. « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. » Il fait encore une prière, « Dispose mon cœur à la crainte de ton nom et je te louerai de tout mon cœur. » Les exaucements font naître la louange. Les exaucements font naître l'adoration, glorifier le Seigneur. Il dit, « Je glorifierai ton nom à perpétuité. » Dispose mon cœur à marcher avec toi, puis ça va faire que je vais glorifier encore plus ton nom. Et je vais terminer avec ça dans mon message. Ça l'ajoute de la fraîcheur dans notre vie de prière, dans notre persévérance de la prière. Le fait que Dieu réponde me donne le goût de prier davantage. Psaume 116, verset 1, presque tout le chapitre est vraiment intéressant. Ici, dans le psaume 116, on voit quelqu'un qui a failli mourir. Soit il y a eu une maladie, soit il y a des adversaires qui l'ont laissé comme pour mort. Mais il va dire ceci, psaume 116, verset 1, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » Fait que j'aime l'Éternel parce qu'il entend ma voix. Il y a comme l'action de grâce et la prière, ça va comme ça. Il entend ma voix, il entend mes supplications. Il a penché son oreille vers moi, je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, l'angoisse du sépulcre m'avait saisi, j'ai été en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Il a failli mourir. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur ». Mais comment rendrai-je à l'Éternel tous tes bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Donc, la prière puis la louange, ça va ensemble. Parce que si tu reconnais les exaucements, si tu regardes comment Dieu a répondu à tes prières, ça fait naître chez toi une adoration au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il faut que tu veilles à garder soit un calepin, soit à te souvenir de tes prières, de tes exaucements, parce que c'est ça qui va te donner le goût de continuer à persévérer dans la prière. Puis c'est ce qui va faire que tu vas aimer encore plus Dieu. On va arrêter l'enregistrement ici. Puis dans le fond, je vous...